France Inter.
Aujourd'hui, tortues marines, les discrètes aux grands yeux, racontées par
David Grémillet, biologiste marin au CNRS.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
La nuit est lourde et tiède sur la côte pacifique du Costa Rica. À Ostional, un village minuscule bordé de collines, les habitants scrutent la mer. Ils savent que cela peut arriver d'un moment à l'autre. Au loin, une première carapace sombre fend les vagues et s'échoue sur le sable, puis une autre, puis 10, puis 100. Elles sont là, des milliers de tortues olivâtres surgies des profondeurs de l'océan. C'est le début de la ribada. Dans la lueur de la lune, les tortues avancent lentement, obstinément, creusant avec leurs nageoires postérieures des cratères réguliers. Le sable vole, les gestes se répètent presque mécaniques. Puis vient la ponte, des dizaines, parfois une centaine de ronds blancs confiés à la chaleur du sable. À perte de vue, la plage d'Ostional se couvre de cavités. En une seule nuit, ce sont des centaines de milliers d'œufs qui sont déposés. Les habitants, eux, observent et parfois participent. Au Costa Rica, un programme unique autorise les communautés locales à prélever une petite partie des œufs lors des premiers jours, assurant leur subsistance tout en protégeant la majorité des pontes, car les tortues, en nombre démesuré, détruisent souvent les nids de leurs voisines en creusant les leurs. Quand l'aube éclaire la côte pacifique, il ne reste plus que les traces d'un passage, des sillons parallèles, du sable retourné, des cavités rebouchées, les tortues épuisées regagnent la mer une à une, disparaissant comme elles étaient venues. Quelques semaines plus tard, la plage s'agite à nouveau. Des milliers de petites têtes percent le sable. C'est une seconde marée vivante, celle des nouveau-nés, qui d'un même élan se précipitent vers l'océan. Beaucoup seront happés par les oiseaux, les crabes ou les vagues trop fortes. Très peu atteindront l'âge adulte. Mais celles qui survivront reviendront un jour pondre sur cette même plage d'Ostional, fidèle au rendez-vous ancestral. Cette scène qui se répète sur quelques rares rivages du monde nous rappelle une vérité plus vaste. Les tortues marines sont partout les messagères du temps long. Elles portent en effet en elles 200 millions d'années de vie sur Terre. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour David Grémillet.
Bonjour.
Vous publiez chez Actes Sud « Les discrètes rêves de tortues marines ». Cette scène d'Arribada, c'est le nom qui est donné, vous y avez assisté plusieurs fois ou pas ?
L'arrivée en espagnol, pas au Costa Rica, mais en Inde, sur les côtes du golfe du Bengale, au sud de Calcutta, où les tortues olivâtres viennent aussi parfois, plusieurs centaines de milliers viennent pondre en quelques jours.
Ouais, c'est stupéfiant dans comme scène, non ?
Assez proprement hallucinant, et ouais. On se demande la raison de ce comportement. Alors bien sûr, il y a un comportement de masse qui vise à produire beaucoup d'œufs en même temps, qui donneront beaucoup de tortues, petites tortues en même temps, qui auront plus de chances de regagner la mer sans se faire manger.
Parce qu'il y a beaucoup de pertes quand même, hein.
Alors, il y a énormément de pertes. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que les émergences, c'est-à-dire le moment où les petites tortues vont sortir du sable et se ruer vers la mer, ça se passe généralement de nuit. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit en boucle dans les reportages les frégates qui mangent les petites tortues. Ça, c'est vraiment une fraction infime des petites tortues qui, malheureusement, finissent leur vie de cette manière-là. La plupart sortent de nuit, arrivent jusqu'au flot. Bon, là, elles se font très souvent manger aussi par des gros poissons prédateurs, hein, les mâchoirants que j'ai pu observer en Guyane française.
Oui. Comment un spécialiste des oiseaux marins en vient à se passionner aux tortues marines, David Grémillet ?
Alors j'ai travaillé pendant plusieurs décennies sur les oiseaux marins et le constat était que la communauté mondiale des oiseaux marins a diminué de moitié au fil de mon existence. C'était assez déprimant. Je travaillais aussi sur la surpêche. J'ai travaillé sur la figure de Daniel Poli qui a été le grand lanceur d'alerte sur
à ce micro d'ailleurs l'année dernière
sur la surpêche. Ouais. Et voilà. Et à l'approche de la cinquantaine, alors que je suis un optimiste de nature, j'étais quand même assez déprimé par ce constat. Et là, je suis tombé sur le cas des tortues marines qui vraiment sont pas des candidates à la survie dans un océan anthropisé. Et j'ai appris que les trois quarts des populations étudiées étaient en train de croître à nouveau. Et ça, pour moi, c'était absolument incompréhensible, parce que quand j'avais vu les tortues luttes la première fois en Guyane française, il y a 20 ans, pour moi, c'était clair, elles allaient disparaître. Il y avait trop de captures accidentelles, pas assez de petites tortues qui allaient survivre pour permettre de maintenir ces populations. Et ben 20 ans plus tard, en fait, les tortues m'ont donné tort et je suis parti à la recherche de ces tortues un peu partout dans le monde et dans les zones tropicales pour essayer de comprendre.
Ouais. Et donc, vous avez été boosté, ça vous a redonné le moral, cette histoire?
Ah ben, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et puis, après, j'ai eu ce plaisir. Alors, je me suis remis sérieusement à la plongée bouteille aussi pour pouvoir plonger et voir les mondes marins des tortues. Et je suis émerveillé par toute leur performance, leur capacité de survie et aussi le caractère esthétique des tortues marines sous l'eau.
Vous ouvrez le livre par une scène qui se déroule en Guyane, face à une tortue lutte en train de pondre ses œufs sur un terrain de foot. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce soir-là, en vivant cette scène?
Alors c'était dans le noir complet, donc initialement, presque de la peur, parce que j'ai pas immédiatement compris ce qui se passait. Et puis heureusement, j'ai entendu la respiration de la tortue. Là. Parce que les tortues, quand elles creusent leur nid, elles travaillent en apnée, et de temps en temps... elles reprennent de l'air. Et là, j'ai compris, je me suis dit, ah, c'est une tortue lutte. Et c'était la première que j'arrivais à rencontrer, mais on était complètement dans le noir, je ne la voyais pas.
Ouais, ça a été une grosse émotion alors pour vous d'être face à cet animal, parce que quand vous dites que c'est une grosse tortue, c'est une très très grosse tortue.
Ah oui, parce que les tortues luttes peuvent largement dépasser les 2 mètres, aller jusqu'à 600 kilos. Elles sont beaucoup plus grosses que les 6 autres espèces de tortues. C'est vraiment une géante.
Alors, pour nos auditeurs et auditrices, David Grémillet, on a mis en story sur le compte Instagram de La Terre au Carré une petite vidéo très très courte où on vous voit justement lors de cette scène en 2004. Alors là, c'est deux jours, hein, c'est au petit matin. Et on voit donc cette tortue qui finit de pondre ses œufs. Et on vous voit, vous, à côté, presque un petit bonhomme finalement, parce que la taille est gigantesque. Il faut vraiment voir ça, c'est incroyable.
Oui, bah je remercie Jean-Yves Georges qui est auteur de la séquence. Ouais. Généralement, les tortues viennent pondre de nuit, à la fraîche et aussi pour éviter les prédateurs. Dans le cas des tortues luttes, seuls les jaguars peuvent les manger. Ouais. Mais donc la plupart des pondes se passent de nuit. Dans ce cas-là, c'était vers la fin de la nuit. Et donc la tortue qu'on voit est en train de finir de recouvrir et de masquer le site de ponte et elle s'apprête à retourner vers l'océan.
C'est ça. Et on voit donc cette masse spectaculaire. Et donc je vous invite à découvrir cette vidéo tout de suite en allant sur le compte Instagram de La Terre au Carré. La lutte, justement, c'est la plus grosse des tortues marines ?
Et de loin. Hein. De loin, on peut classer les tortues en 3 groupes. Il y a les petites qui vont peut-être faire 70 cm de long, dont la tortue olivâtre que vous avez mentionnée, la tortue de Kemp qui en fait est une sous-espèce de la tortue olivâtre. Après, les tortues de taille moyenne qui vont faire 1 mètre, entre 80 cm et 1,20 m, la tortue imbriquée, la tortue à dos plat, Kawan et la verte qui est beaucoup plus grande. Et après, la tortue lutte donc qui fait au moins le double de toutes les autres et qui est là depuis 100 millions d'années, qui a côtoyé les dinosaures.
David Grémillet, on va écouter l'herpétologue Jacques Fretet. C'est au micro de France TV Outre-mer en 2023, donc il y a 2 ans, au sujet de la tortue lutte.
Au milieu de ces années 70, on ne savait pratiquement rien sur les tortues luttes. C'était vraiment une espèce vraiment mystérieuse, complètement inconnue du monde scientifique.
Il y a beaucoup de blessures chez la tortue lutte. Celle-ci, par exemple, a eu la patte postérieure gauche complètement mangé, sans doute par un requin. Les plus gros prédateurs en mer sont les requins, les orques et l'homme, bien sûr. Hein, l'homme qui peut la chasser au harpon. Elles se font énormément prendre dans les filets.
On commençait à être une époque où il y avait une demande du public à participer à des actions de recherche scientifique ou de conservation.
Voilà, Jacques Fretet, qui nous dit que la tortue lutte, donc, a pendant très longtemps été ignorée par les scientifiques.
Alors plus exactement, c'est extraordinairement difficile à étudier. Imaginez, une tortue vient sur la plage, pondre plusieurs fois pendant la saison, aucune idée de son âge, aucune idée de où elle vit 95% du temps quand elle est en mer. Et puis une équation insoluble pour les démographes. Comment calculer la taille de la population à partir d'un comptage du nombre de femelles nicheuses? On n'a pas la moindre idée du nombre de mâles, pas la moindre idée du nombre de juvéniles qui vont disparaître dans les océans et grandir jusqu'à pouvoir se reproduire peut-être pendant des décennies, peut-être des siècles, y avait énormément d'inconnus.
Est-ce qu'on voit des pontes de tortues marines sur les plages françaises aujourd'hui, David Grimier ? Parce que ça nous paraît toujours être très lointain, mais est-ce qu'on peut assister à ça maintenant ?
Eh ben, elles sont très proches de nous maintenant. Et là où j'habite, à Montpellier, en fait, y a eu des pontes sur les plages proches de Palavas. Ouais. Des tortues kawan qui profitent du réchauffement climatique et du réchauffement de l'ouest de la Méditerranée, qui cause plein de problèmes. Hein. Mais de fait, les plages de l'ouest de la Méditerranée, maintenant, sont aussi chaudes que celles de Turquie, de Grèce, de Chypre, là où nichent les tortues kawan et les tortues vertes. Et donc, c'est assez merveilleux, les tortues viennent à nous et pondre sur le littoral languedocien.
Donc, on va de plus en plus en voir, en fait.
Alors, normalement, oui. Il y a juste un problème pour les petites tortues, c'est le mistral dans le golfe du Lion, qui peut pousser les eaux de surface, créer un upwelling qui va très rapidement refroidir les eaux de surface. Et on pense que peut-être à l'automne, ça peut se transformer en piège écologique pour les petites tortues. Parce que ces tortues, si l'eau descend à moins de 15 degrés, elles tombent en torpeur. Ouais.
À quel moment se passent justement les pontes en général ?
Alors les pontes, c'est au début de l'été et avec des émergences vers la fin de l'été pour les petites tortues kawan.
Est-ce qu'il y a des consignes à donner d'ailleurs aux Français et aux Françaises qui pourraient assister à une ponte de tortues marines ?
Alors, il faut immédiatement avertir l'ONG locale qui s'intéresse aux tortues marines. Il y en a un petit peu partout. Il y a le Siquarium du Gros-du-Roi, l'Aquarium de La Rochelle sur la côte atlantique. Et à partir de là, la zone de ponte va être balisée, encerclée, gardée, jusqu'à ce que les petites tortues puissent sortir. Et c'est une incitation aussi à moins bétonner les côtes.
La discrétion, puisque c'est pour reprendre le titre de votre livre, David Grimier, c'est le secret de ces tortues, c'est très central pour cet animal ?
Eh ben c'est la caractéristique qui s'est imposée à moi au fur et à mesure de la rédaction. Je dirais aussi l'efficacité, la capacité à passer sous le radar, un mode de vie très frugal. Une physiologie au ralenti et extrêmement efficace, une capacité à traverser les âges, un système anticancéreux absolument incroyable, une longévité peut-être multicentenaire.
C'est un animal qui est étudié aussi pour ces raisons-là ou pas ?
Alors on commence tout juste sur la base de marqueurs moléculaires, on arrive à donner un âge aux tortues marines. Il y a aussi des méthodes sur les carcasses de tortues marines, on peut faire des sections sur les os et compter les stries de croissance comme sur les arbres. Mais grâce à des marqueurs moléculaires un petit peu plus précis, maintenant on estime que les tortues lutes peuvent devenir centenaires, les autres peut-être atteindront 80 ans.
On va parler dans un instant des menaces et des fragilités de ces tortues marines, David Grimier. Et puis nous attendons bien sûr vos messages et vos questions sur la page de La Terre au Carré et nos réseaux sociaux, vos messages vocaux également sur l'appli Radio France.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
Ce sont les plus anciens reptiles vivants. Leur lignée remonte plus haut que le dinosaure. Elles sont apparues sous l'aspect qu'elles ont encore actuellement. Ces grandes tortues vivaient jadis sur Terre. Leur vie se passe maintenant dans la mer, mais il leur faut revenir au rivage pour déposer leurs œufs. En effet, les tortues adultes peuvent rester sous l'eau pendant des heures, mais les nouveaux-nés ont besoin de respirer tout de suite et souvent. Les nids doivent donc être creusés sur le rivage.
Et l'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau, le destin des tortues de mer en 1969, sur l'ORTF. David Grimier, vous qui publiez Les discrètes rêves de tortues marines, c'est aux éditions Actes Sud dans la collection Monde Sauvage. Alors c'est vrai que ce sont les ultimes survivantes de grandes voyageuses et qui sont aussi des rescapées. Vous parliez du temps des dinosaures. Ben, elles ont échappé, elles, à la météorite qui est tombée sur le nez des dinosaures.
Eh ben oui, et elles ont dit ouais, goodbye les dinosaures, nous on
se plante. Donc,
oui, voilà.
Ouais. Mais c'est peut-être le milieu marin qui les a sauvés d'ailleurs, non ?
Alors c'est probablement un mode de vie très frugal et la capacité à jeûner pendant des mois, voire des années, qui les ont sauvés à ce moment-là.
Elles peuvent jeûner des années entières ?
Oui.
C'est-à-dire
si nécessaire, et c'est leur la manière dont elles vont aussi résister au stress. On le voit dans les centres de soins qui accueillent les tortues marines blessées.
Ouais.
Parfois, elles restent dans le coin d'un bassin pendant des mois à rien faire. On a l'impression que rien ne se passe, ben juste elles récupèrent.
Donc, elles ont un métabolisme qui permet ça, en fait. Hein.
Oui, tout à fait.
David Grémillet, il faut parler évidemment des déplacements de ces tortues voyageuses, de leur orientation, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fascinant. Est-ce qu'on sait enfin comment elles retrouvent les mêmes plages après des milliers de kilomètres ?
Oui, bah, il faut imaginer ces tortues qui vont traverser des océans, notamment le Pacifique dans sa grande largeur, hein, par exemple de Basse-Californie jusqu'au Japon, en un an, à quelques kilomètres heure, mais elles finissent par y arriver, même si elles peuvent sprinter à 35 kilomètres heure sous l'eau.
Sprint de tortue, ça.
Si elles ont peur, oui, c'est la vitesse d'un bateau de guerre. Et il faut imaginer que dans cet océan infini, elles vont retrouver une tête d'épingle. Par exemple, l'île d'Ascension, en plein milieu de l'Atlantique Sud,
oui.
Qu'elles vont rallier depuis, que les tortues vertes vont rallier depuis la côte du Brésil. Et les tortues vont retrouver. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont sensibles au champ magnétique terrestre. Et c'est probablement le compas principal, en tout cas la première clé de lecture de leur GPS intégré.
C'est ça.
Mais probablement, et là par contre je spécule, il y a d'autres sens, celui des courants, de la couleur, du goût de l'océan.
Donc il y a des repères chimiques gustatifs qui pourraient jouer ?
On peut présumer. C'est ouais. Extrêmement difficile à tester, et même les plus grands spécialistes que je cite dans l'ouvrage disent qu'en fait on sait ouais. Très peu de choses. Pour ce qui est du champ magnétique terrestre, c'est prouvé. Après, on peut imaginer qu'elles vont observer les constellations à la surface de l'océan la nuit. Et ce qu'on présume fortement aussi, c'est qu'à l'approche de ces îles, il va y avoir un panache olfactif lié au substrat et à la végétation. Par exemple, les veloutiers sur les îles de l'océan Indien, la végétation côtière. Et puis ces très beaux amandiers que vous avez vus peut-être au Costa Rica, qui bordent le rivage, qui hébergent les haras. Et ben, si on voit tous ces beaux haras au Costa Rica, c'est parce qu'il y a des amandiers. Ouais. Et les amandiers, en fait, ils sont là à cause des millions d'œufs de tortues marines qui vont donner leur liquide amniotique aux plages et ensemencer la végétation. Donc là, on a une boucle.
Ouais, mais c'est fou parce qu'il y aurait quasiment des signatures olfactives sur chaque territoire. Ce que vous dites, une tête d'épingle, ça peut être une petite île, un petit bout de territoire. Elles arrivent à le retrouver comme ça.
Voilà, tout à fait.
Incroyable.
Ah oui, oui.
Ça peut parcourir combien de kilomètres, alors? Si on parle d'une migration, par exemple, de tortues marines...
Les tortues luttes qui partent de Guyane française, elles peuvent venir devant La Rochelle, traverser l'Atlantique. Celles ouais. de Trinidad vont monter au large de Halifax, au Canada, là où je suis allé enquêter pour cet ouvrage. Donc c'est ouais. un aller-retour de 8000 kilomètres.
Incroyable. Combien d'espèces il existe de tortues? Alors, tortues globales, terrestres et marines, et puis marines?
Alors, marines, il y en a 7. Il y a 7 espèces de tortues marines actuelles, mais on estime que par le passé, il y en avait des dizaines. Donc on a des fossiles pour plusieurs dizaines de tortues marines,
ouais.
et qui, à l'époque des dinosaures, étaient gigantesques. Il y en a certaines, Archélon, par exemple, faisaient 4 mètres de long. On estime qu'à pendant cette période-là, elles échappaient à la prédation et aux dinosaures par leur taille.
Ouais.
Et c'est encore la stratégie de la tortue lutte aujourd'hui qui date de cette époque.
Toutes les espèces figurent sur la liste rouge de l'UICN aujourd'hui ?
Oui, tout à fait, ouais. Et 3 d'entre elles sont en danger critique d'extinction. Pour les autres, ça se passe un petit peu mieux. Et c'est ce que je disais en préambule, c'est pour certaines de ces populations, notamment pour les tortues kawanes, les tortues vertes et les tortues imbriquées, régionalement, les populations ont tendance à récupérer.
Ouais.
Ce qui me paraissait parfaitement impossible. Par contre, pour les tortues luttes, notamment dans le Pacifique, ça se passe très mal à cause des captures accidentelles ouais. sur les engins de pêche.
Donc il y a ce paradoxe, hein, c'est la résilience millénaire hein, de ces tortues marines, on le disait. Hein, elles ont réussi donc à passer la grande extinction il y a 65 millions d'années. Et puis leur fragilité actuelle due aux activités humaines. Hein.
Ouais, si on pense notamment en Méditerranée, la Méditerranée, donc devant chez moi à Montpellier, qui cumule un peu toutes les pressions, hein. Quasiment un tiers du trafic pétrolier, un trafic maritime intense, donc des pollutions chimiques, de la surpêche, des pollutions plastiques,
ouais.
un bruit sous l'eau qui doit être hallucinant. On se dit, mais voilà, il devrait, la bétonisation des côtes, etc. Et
c'est l'enfer quoi, pour ces animaux.
Voilà,
en fait,
et quand même, elles sont là. Et les populations méditerranéennes de tortues vertes et de tortues kawanes, Taïwan sont en augmentation.
Vous parlez d'angoisse de père en les voyant naître dans ce monde, c'est vrai ? C'est ce que vous ressentez ? C'est assez étonnant, non ?
Ah ouais, j'ai vu une petite tortue sortir de l'œuf et du revers de sa patte essuyer les grains de sable dans ses yeux et partir en bataille contre tout ça. Et je dois dire, bon, j'ai vu beaucoup de grandes faunes sauvages, hein, on parlait tout à l'heure des ours polaires au Groenland, j'ai vu beaucoup de choses hallucinantes dans la nature, mais je dois dire que ça, c'était la chose la plus émouvante que j'avais jamais observée.
Les tortulutes sont menacées, vous l'avez dit. On va écouter un extrait d'un reportage de France 2, c'était en juin 2019 en Guyane, David Grimier.
J'ai une tortulute qui monte à 10 mètres de toi.
Ok, bien reçu.
La lutte, c'est la plus grosse tortue marine. De juin à août, elle vient faire son nid sur les côtes guyanaises.
Donc la tortulute est en déclin. Le premier facteur serait la pêche accidentelle. On a aussi l'érosion qui détruit 40% des nids chaque année. Donc c'est aussi qui explique qu'on n'aurait pas un renouvellement de la population. Dans les années 90, on était à 50 000 pontes par an. Là, actuellement, on est à moins de 200 pontes par an.
Ont-elles disparu ou choisi d'autres endroits pour pondre ? Damien Chevalier, le chercheur du CNRS, veut résoudre le mystère.
Voilà, c'est un collègue à vous, Damien Chevalier, et Lorraine Jantet, qu'on entendait également dans ce reportage de France 2, David Grimier, pour commenter ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'effectivement, c'est une disparition, une menace ? Comment on l'explique ?
Alors d'abord, c'est exact. En 2001, il y avait à peu près 18 000 nids de tortulutes en Guyane. En 2013, seulement 1500.
Ouais.
La grosse menace qui pèse sur les tortues marines, les tortulutes et les autres, hein, sont vraiment les captures accidentelles dans les engins de pêche.
Ouais.
Et ça a été une des grandes surprises de cette enquête aussi. Moi, je pensais que les pollutions plastiques, microplastiques, l'ingestion de plastique était une menace significative pour les tortues marines. Eh ben non, en fait, il y a des grands spécialistes qui m'ont dit non, en fait, manger des plastiques, ok, en Méditerranée, toutes les tortues font ça, mais ça les a jamais tuées. Ce qui les tue, par contre, ce sont les lignes de pêche, les hameçons, les chaluts, les filets dérivants.
C'est responsable de centaines de milliers de morts de tortues chaque année, hein.
C'est monstrueux.
Ouais.
C'est monstrueux. C'est monstrueux et très inquiétant en même temps quand on peut penser. Alors, il y a des grosses incertitudes sur ces chiffres-là et sur la taille des populations mondiales de tortues, mais on estime que seulement quelques centaines de milliers de femelles pondeuses sont encore présentes de par le monde. Et d'un autre côté, on se dit quelques centaines de milliers meurent dans les engins de pêche tous les ans. Vous voyez l'ampleur du problème.
Ouais.
Et néanmoins, certaines des populations sont en croissance, d'où mon émerveillement.
Vous décrivez le rôle de la température dans la détermination du sexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme ? Est-ce que le changement climatique, du coup, peut faire aussi dans ce cadre-là ?
C'est la seconde menace.
Ouais.
C'est-à-dire que dans un monde qui se réchauffe, il va y avoir une féminisation des populations de tortues marines, sachant que tout œuf incubé à plus de 30 degrés donnera une femelle. Et en deçà de 29, un mâle. Voilà, donc c'est ce qui est en train de se passer. Il y a quand même deux choses qui compensent. La première, c'est que les populations peuvent être maintenues avec très peu de mâles, qui sont d'ailleurs très embêtants pour les femelles de tortues, je dois dire. Et deuxièmement, il y a probablement des cicatrices évolutives, on dira, qui font qu'il y a une plus grande adaptabilité des tortues à ce réchauffement que ce qu'on pouvait penser.
Donc il y a des stratégies quand même.
Voilà, donc c'est parce qu'on pensait initialement que vraiment ça allait être la fin des tortues marines. Encore une fois, elles sont toujours là, et que c'était la principale menace. La principale menace, ce sont les captures accidentelles, et peut-être en deuxième position le changement climatique.
Donc il y a moins de mâles en fait, hein, c'est ça ?
C'est ce qui est en train de se passer, oui.
Ouais, et ça pose problème pour.
On ne sait pas encore exactement. Donc il y a des modèles aussi qui ont été établis par des collègues australiens qui testent l'adaptabilité des populations en fonction du sexe ratio.
Ouais.
Et pour l'instant, ça a l'air de tenir pour pas mal des populations.
Les collisions avec les navires, ça aussi, c'est un problème majeur pour les tortues, parce qu'il y a une explosion du trafic maritime, hein, et des croisières aussi. Ça joue sur les pertes de population ?
La plupart des tortues que j'ai vues en centre de soins avaient été aussi percutées par des bateaux et les hélices leur avaient infligé des terribles blessures sur leur carapace dont elles peuvent récupérer. Mais oui, le trafic maritime, c'est un problème. Et la vitesse des bateaux.
Oui.
C'est la même chose pour les grands mammifères marins. Tout bateau qui va se déplacer à plus de 10 nœuds sera une menace.
Pourquoi vous dites que les tortues sont des sentinelles de l'océan alors ?
Parce que je pense que en arrivant à résoudre le problème des captures accidentelles, on va arriver à une réforme de nos pratiques de pêche qui est vertueuse de toute manière. Et c'est là où on voit que les tortues marines sont des espèces parapluies et emblématiques, parce qu'avec moins de captures accidentelles, on aura des pêches plus durables, et c'est exactement dans cette direction qu'il faut aller.
Sauf que, est-ce qu'on en prend le chemin ?
Alors, il y a quand même eu récemment des bonnes nouvelles, comme le traité sur la haute mer des Nations Unies, qui
démarre,
voilà, et aussi l'accord de l'Organisation mondiale du commerce pour stopper les subventions toxiques aux pêches illégales et aux pêcheries qui sont pas durables. Donc voilà, c'est comme toujours, la coupe est seulement à moitié pleine. C'est-à-dire qu'il faudrait faire beaucoup plus. Et là, je cite toujours l'ouvrage de Didier Gasquel pour une révolution dans la mer. Hein. Les halieutes, les biologistes des pêches, dont Didier Gasquel, dont Daniel Poli, ont donné toutes les clés pour transformer nos activités en milieu marin vers de manière plus durable. Donc on a toutes les clés en main et on a un levier énorme parce qu'on va pouvoir réformer ces activités et les usages beaucoup plus rapidement qu'on aura une incidence, par exemple, sur le climat. Sur le climat, on va avoir une incidence sur une échelle de temps géologique. Mmh. On peut transformer les pêcheries à l'échelle d'une seule décennie.
Les tortues marines, c'est donc le dossier avec vous de la Terre au Carré de David Grémillet, alors que paraît Les Discrètes Rêves de Tortues Marines. C'est aux éditions Actes Sud.
France Inter. La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Cours d'ichtyologie à l'université de Miami. Pour le jeune homme au troisième rang, l'ichtyologie est l'étude des poissons, la biologie sous-marine. Voici le genre Colonia, avec carapace, plastron, tête, pattes et queue rétractable. Une tortue, professeur ? Maintenant, les étudiants se mettent à réfléchir et entrent en classe. Voici la première utilisation pratique de ces stylos qui écrivent, vous savez où ? Sous l'eau, le cours poursuit sa recherche studieuse. Ah, voici un beau spécimen du genre Colonia. Tout le monde est content, sauf la tortue.
Et c'est une archive de 1947 qui était diffusée aux actualités françaises avec une traduction de Jérôme Boulet. David Grémillet, vous qui êtes ornithologue, marin, océanographe et chez Actes Sud, paraît votre ouvrage « Les discrètes rêves de tortues marines ». C'est un livre qui est préfacé par la romancière Alice Fernet et qui écrit « Observer est le commencement, connaître est l'ambition, soigner et protéger devient possible ». Comment ça se traduit ça dans votre travail concrètement ?
Je dirais dans le travail des ONG qui protègent les tortues marines sur le terrain, avec un acharnement et une persévérance digne des tortues marines, justement. Mmh. Toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer dans les pays du Sud au fil de cette enquête, et qui, avec beaucoup de courage, et souvent dans des conditions très difficiles, parce que quand on est un écologue dans les pays du Sud, ça peut même être assez dangereux, protègent ces tortues, protègent les plages, protègent les sites de ponte, et font du lobbying pour aussi réformer les pratiques de pêche en zone côtière. Donc toutes ces personnes que je mentionne dans l'ouvrage ont vraiment mon admiration.
Mais c'est ce qui explique aussi finalement que les résultats sont bons.
Ah bah tout à fait. Hein,
c'est parce là... qu'il faut quand même le dire et le redire. C'est pas souvent à ce micro d'ailleurs qu'on donne des bonnes
c'est
nouvelles.
Vrai.
Donc allons-y, profitons-en. Chez les tortues marines, ça va plutôt pas mal.
Alors ça fonctionne tant qu'il n'y a pas trop de captures accidentelles, une fois de plus. Mais là où on a protégé les sites de ponte de manière efficace, c'est ce que j'ai pu observer sur la rive nord de Chypre, par exemple.
Oui.
Sur la côte caraïbe du Costa Rica, en Australie, en Indonésie, en Inde. Et bah oui, c'est quand les programmes de conservation sont maintenu au fil des décennies, ça fonctionne.
Vous citez l'exemple de Chypre, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, concrètement ?
Ah ben de Chypre, sur la côte nord de Chypre, un monsieur que tout le monde appelle Ketcho a hérité d'un grand terrain en bord de mer. Il aurait pu construire un hôtel de luxe et devenir millionnaire. Sauf que lui, il aimait bien les tortues marines. Il y avait des tortues marines. Alors il a invité des scientifiques écossais qui sont venus, qui ont installé un programme de conservation qui maintenant fête ses 30 ans bien passés.
Ouais.
Et grâce à cela, bah, les populations de tortues marines sont en train de récupérer dans cette zone.
Autre exemple, dans le golfe du Bengale, vous décrivez avec minutie le transfert des œufs. Ça, c'est une pratique aussi qui est décisive pour le maintien des populations de tortues ?
Alors, controversée, mais néanmoins décisive dans certaines zones quand il n'y a pas d'alternative. Oui. Je pense que tant qu'on peut maintenir les nids dans les plages, protéger les plages, il faut le faire. Par contre, s'il y a vraiment des zones dans lesquelles les nids sont condamnés, et c'était le cas dans le golfe du Bengale, là, on peut faire un transfert. Et les scientifiques indiens avec lesquels j'ai travaillé ont démontré que en écloserie, le succès à l'éclosion des petites tortues était le même que dans les plages. Mais je pense que là, il ne faut pas que ce soit systématique et effectué avec la plus grande prudence.
Donc ça veut dire refaire à la main des nids parfaits.
Voilà, ouais. J'ai observé ça en Inde et on voyait le coup de main incroyable de mes collègues indiens qui, comme les meilleurs des artisans, façonnaient ces nids en forme de poire à l'image de ceux des tortues pour délicatement déposer les œufs dans le bon sens et dans le bon ordre.
Vous dites à quel point aussi les peuples autochtones jouent un rôle majeur pour le maintien des populations de tortues ?
De plus en plus, et c'était mon souhait aussi avec cet ouvrage que j'aurais pu rédiger depuis mon bureau juste sur la base des connaissances et des publications des laboratoires du Nord. J'ai voulu aller à la rencontre des peuples des pays du Sud. Je suis allé jusque en Australie, là où les aborigènes ont démarré un programme de conservation des tortues à dos plat avec un grand succès pour voir comment ça fonctionnait et comment cette recherche, d'une certaine manière, était décolonisée de manière très efficace.
Vous parlez d'une écologie colonial.
Bah, je pense que c'est en tout cas dans certaines zones, c'est ce qui est en train de se produire et également c'est ce qui est souhaitable. Ouais. Et je pense que ça boucle la boucle avec nos modes de représentation, sachant que les tortues marines sont vraiment des figures tutélaires dans bien des cultures, depuis l'Inde jusque chez les Mayas. On a la tortue monde, la tortue rouge.
Est-ce que le tourisme peut être une ressource aussi positive pour les tortues marines ?
Ah, je pense tout à fait. Bah, le cas typique est celui du Costa Rica, qui fonctionne largement grâce à l'écotourisme.
Et ça ne dérange pas les tortues ?
Alors je pense que si c'est bien fait, non, ça ne dérange pas les tortues. Hein. On attend que la tortue sur la plage soit bien installée et en train de pondre. Il ne faut surtout pas la déranger quand elle sort de l'eau. Et après, dans la lumière rouge, depuis l'arrière, on peut observer la ponte sans la déranger.
Allez, on passe aux questions. On va commencer avec un premier message vocal de Marie qui vient de nous laisser ce message sur l'appli Radio France.
Bonjour, Marie de Vénédès. J'ai eu le plaisir de voir au large des Glénans, où je navigue régulièrement, une tortulute. Il y avait plein de méduses et j'ai appris depuis que les tortulutes aiment se nourrir de méduses. À bientôt.
Merci Marie. Et donc la tortulute aussi fréquente la Bretagne.
Ah, madame a eu beaucoup de chance, mais effectivement, c'est pas complètement impossible de voir une tortulute au large des côtes françaises et notamment en Bretagne. Les tortulutes, elles vont monter presque jusqu'au large de la Norvège, en Atlantique. Et effectivement, les tortulutes adultes se nourrissent exclusivement de méduses. Mmh. Elles peuvent en ingérer plusieurs centaines de kilos en une journée et arriver à engraisser comme des bibendums.
Ouais, donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour nous, hein. Le fait qu'elles se nourrissent des méduses.
Ah oui, alors après, moi je trouve les méduses belles par elles-mêmes et je veux pas qu'elles disparaissent des océans, mais effectivement, les tortues...
S'il peut y avoir un petit peu de nettoyage aux abords des plages, voyez.
Les tortulutes adorent les crinières de lion, ces énormes méduses qui sont oranges en dessous, qui sont magnifiques quand on les voit sous l'eau, et elles les mangent aussi en les aspirant. Elles ont une espèce de système d'aspirateur à méduses.
Très bien.
Étonnant.
Agnès, une question pour vous, David Grémillet. Nous plongeons, dit-elle, depuis une vingtaine d'années. Nous avons souvent croisé des tortues adultes, mais jamais nous n'avons vu le bébé tortue sous l'eau. Nous avons vu des émergences, mais ensuite ces bébés semblaient disparaître. Se cache-t-il ? Demande Agnès.
C'est ce qu'on appelle les années perdues, c'est-à-dire que les petites tortues disparaissent en haute mer, on ne sait pas ce qu'elles vont faire. Mais ces années ne sont perdues que pour nous. Les petites tortues, par exemple les petites tortues kawan en Atlantique, elles vont aller se cacher sous les tapis de sargasses à la dérive, où elles trouvent le gîte et le couvert. Et également, comme les sargasses sont sombres, il fait plus chaud là-dessous et elles vont pouvoir grandir. Mais cette phase-là, en fait, reste encore assez mystérieuse. Ça peut être quelques années s'il y a suffisamment de nourriture. Elles peuvent aussi végéter 45 ans sans se reproduire si elles ne mangent pas assez.
Cécile nous envoie ce message vocal que nous écoutons tout de suite.
Bonjour, Cécile, Aix-en-Provence. J'ai eu la chance à Mayotte de voir pondre les tortues. Voilà, c'était un spectacle absolument extraordinaire, magnifique. Malheureusement, à Mayotte, elles sont poursuivies et utilisées parce qu'elles sont mangées. Merci pour votre émission. À plus tard.
Merci Cécile. David Grévigné.
Dans les pays du Sud, en fait, le problème, c'est la pauvreté. Et c'est pour ça que sur les côtes malgaches, par exemple, il n'y a pas une seule tortue qui arrive à se reproduire. Juste parce que les gens sont pauvres et qu'ils vont vouloir manger les tortues.
Mmh. On mange quoi d'ailleurs dans la tortue ? Les œufs ?
Les œufs et la chair de la tortue.
Oui,
elle-même.
C'est ça. Hein. Oui. Isabelle demande, est-ce vrai qu'une tortue peut renoncer à la ponte si elle se sent en danger ?
Alors, elle peut faire demi-tour sur la plage si elle est dérangée,
oui.
Et revenir plus tard. Donc, effectivement, il faut pas les déranger quand elles montent sur la plage.
Mm-hmm.
Et donc, ça questionne aussi tout notre aménagement littoral, parce que si les littorales et une seule barrière continue de lumière, mm-hmm. Les tortues vont pas pouvoir monter sur les plages.
Et puis enfin, on salue Léa Camilleri, qui est youtubeuse et créatrice de contenu. Elle crée du contenu autour des tortues marines depuis des années. Elle revient de 15 jours au Nicaragua, a travaillé avec des associations de protection locale de tortues, et elle a travaillé plus précisément pour mettre en lumière le braconnage et l'écosystème économique local. Voilà, si on est intéressé, on peut aller sur son compte Instagram, Léa Camilleri. Il y a beaucoup de personnes qui sont engagées pour la défense des tortues. Il y a un affect aussi autour de cet animal qui est assez étonnant, David Grémillet.
Un engouement extraordinaire. Juste au Costa Rica, j'ai recensé, je crois, 70 ONG qui s'occupent des tortues marines. Alors, c'est injuste d'une certaine manière parce que, voilà, il faudrait s'occuper aussi des protistes et des lichens. Mais en milieu marin, encore une fois, les tortues marines sont des parapluies extraordinaires pour la conservation.
Merci beaucoup en tout cas David Grémillet d'être passé aujourd'hui dans la Terre au Carré, et puis j'invite à nouveau nos auditeurs et auditrices à voir cette petite vidéo. On vous voit donc en 2004 avec une gigantesque tortue lutte sur une plage de Guyane. On a posté cette vidéo sur le compte Instagram de l'émission. Merci beaucoup à vous, je renvoie sur votre livre Les discrètes rêves de tortues marines, c'est aux éditions Actes Sud.